Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chronique La Minute du CIDFF sur 48 FM avec aujourd'hui Claire qui est là. Bonjour Claire.
Salut Ludo.
Alors aujourd'hui nous allons parler des jeux vidéo, du sexisme dans les jeux vidéo. Peut-être pour commencer déjà de redéfinir ce que c'est le sexisme.
Oui, tout à fait. Alors, le sexisme, c'est une discrimination qui est fondée sur le sexe ou le genre d'une personne. Le sexisme, en gros, il se base surtout sur les stéréotypes de genre et il peut comprendre la croyance qu'un sexe ou qu'un genre serait intrinsèquement supérieur à l'autre, si tu veux.
Voilà, chose que l'on peut retrouver dans les jeux vidéo. Donc déjà, quelle représentation les femmes ont dans les jeux vidéo, dans cet univers-là ?
Alors, dans l'univers des jeux vidéo, ça va être un petit peu ce qu'on retrouve dans la société de manière générale, et on en avait déjà parlé dans le cinéma, dans la lecture, etc. On a des personnages qui sont d'abord très 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 stéréotypés, d'accord, avec des femmes qui ont toujours un peu les mêmes caractéristiques, les mêmes rôles. On a aussi une sous-représentation des personnages féminins. Et pour ça, j'invite les gens à se renseigner. Il y a une personne qui s'appelle Thomas Versavo qui a étudié tout ça et qui parle de masculinité toxique dans le monde du jeu vidéo, qu'on appelle aussi univers vidéoludique pour le petit instant vocabulaire. Et il a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Game Spectrum. Donc lui, ce qu'il a vu effectivement, c'est que dans les contenus, il y a de la violence, ça on le savait, beaucoup de compétition, et ça raconte très souvent l'histoire d'un personnage principal masculin à qui il arrive plein de trucs et qui doit gagner en puissance pour régler des conflits, des choses comme ça. Les personnages féminins, quand il y en a, sont très secondaires, voire quasi inexistants, et ils dépendent complètement de ce personnage masculin central. Et en plus, ils sont toujours un peu du même acabit, c'est-à-dire qu'on va retrouver assez facilement les vilaines, les sorcières, les femmes en détresse à sauver, les prostituées, etc., etc.
Alors, quand un personnage comme Lara Croft est arrivé, est-ce qu'il faut être content de se dire, voilà, un personnage principal qui est là, ou se dire, bon, elle est quand même hyper sexualisée, c'est quand même un peu gênant, comment se positionne ?
Alors, c'est super intéressant que tu parles de Lara Croft. Lara Croft, c'est un peu les deux, puisque effectivement, en termes de physique, de normes physiques, on peut dire qu'elle est quand même hyper sexualisée, parce qu'il y a aussi beaucoup la sursexualisation des corps féminins, avec les formes exagérées, les tenues légères, voire hyper légères. Et est-ce que tu sais comment Lara Croft a été designée ? À l'origine ?
Pas du tout.
En fait, c'est une erreur. Il y a eu une erreur de codage au moment de la création de son personnage qui lui a grossi du coup la poitrine de 150% de ce qui était prévu à l'origine. Et l'équipe, composée essentiellement d'hommes, s'est dit en fait, ça plaît bien. Donc, ils l'ont laissé comme ça. Mais à la base, ses gros seins, c'est une erreur de codage.
D'accord. Donc, c'était pas volontaire.
Non, c'était pas volontaire. Donc, voilà. Donc, on a ce Thomas Versavo qui a étudié ça. Vous pouvez aller voir, du coup, sa chaîne Game Spectrum. Il y a aussi une femme qui s'appelle Anita Sarkisian, qui a souvent dénoncé le sexisme dans les jeux vidéo et qui, elle, c'est une femme, en a payé le prix. Mais ça, je vous en parle plus tard. Est-ce que, Ludo, tu connais les premiers personnages féminins des jeux vidéo ?
Les tout premiers dans l'histoire des jeux vidéo.
Ouais.
Personnages principaux ou ça peut être les secondaires ?
Les deux. Plutôt secondaires au début.
Alors,
les premiers sont plutôt secondaires.
D'accord. Peach dans Mario Bros.
Ouais.
Ok.
Donc voilà, l'archétype de la demoiselle
à
sauver, la princesse qui est pas très très maligne, qui fait des trucs un peu quand
oui,
elle réagit.
Après dans Mario...
Dans Mario Kart, ça va mieux parce qu'elle fait la course au même titre que les autres.
Voilà, et dans Mario 2 aussi ou 3, je ne sais plus, tu peux changer de personnage, la choisir.
Ouais, tout à fait. À
part Peach, moi qui me suis arrêté à la Nintendo, je ne sais pas.
Alors encore avant Peach, il y a eu Miss Pac-Man. Miss Pac-Man 82, donc finalement quand même, qui est en fait juste une version féminine du personnage de Pac-Man avec juste maquillage et chaussures à talons. Voilà, c'est comme ça qu'on la différencie. Après, effectivement, il y a Princess Peach qui est arrivée. Et puis, il y a Chun-Li pour les amateurs de Street Fighter. Dans le 2, ils ont créé ce personnage féminin, mais qui est quand même plus connu pour la largeur de ses cuisses que ses magnifiques talons de Kung-Fu. Voilà,
ouais.
C'est ça. Et après, effectivement, on a Lara Croft qui est arrivée, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est On est entre les deux. C'est-à-dire que oui, on représente un personnage principal féminin, ce qui est vachement bien, qui est fort, qui va à l'aventure, etc. Et mais voilà, on lui met une grosse poitrine parce que quand même, faut pas déconner, il faut que ça plaise au public masculin. Donc il y a même une étude en 2016 qui a été faite sur la représentation des personnages féminins dans 571 jeux vidéo des années 80 à 2014, qui dit qu'il y a énormément d'hypersexualisation mais que ça baisse globalement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y a un gros pic dans les années 90 quand on commence vraiment à voir les graphismes en 3D là. Bah, on en profite, hein, voilà, qui dit 3D dit des formes. Après ça baisse et puis en 2010 on a quelques pics où ça revient de temps en temps, voilà. Des tailles très fines, des poitrines très développées, des fesses aussi, etc. Donc on peut parler en quelque sorte du male gaze. Est-ce que tu te rappelles de ce que c'est le male gaze ?
C'était la façon de filmer, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. On en avait parlé sur la chronique dans le cinéma. En fait, c'est le regard masculin hétéro, d'accord ? Donc c'est quand c'est fait par des hommes, entre guillemets, pour des hommes. Voilà.
Et ça, on le retrouve dans les jeux vidéo ?
On le retrouve énormément dans les jeux vidéo.
Alors, pourquoi ? Parce que ce sont des hommes qui consomment les jeux vidéo, donc on travaille pour eux ?
Alors, on pourrait penser que c'est ça, mais en fait, contrairement aux idées reçues, depuis 2010, on s'approche des 50%. On est quasiment à la moitié de consommateurs, consommatrices, de jeux vidéo, donc sur les joueurs et joueuses réguliers. En 2020, il y avait 50%, 52% d'hommes. Donc, tu vois, on n'est pas non plus sur que des hommes. Donc, c'est pour ça que c'est encore surprenant, et pourtant, on retrouve seulement 22% de femmes dans les studios de développement de jeux vidéo en France la même année.
Ok. On vient de voir la place des femmes dans l'univers des jeux de vidéo. Mmh. Qu'est-ce qu'il en est de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau des conceptrices, au niveau des...
Alors, eh ben, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a aussi des inégalités et puis il y a même des violences. Donc, je vais t'en parler. Donc, les femmes dans le monde de l'industrie, on va dire, de jeux vidéo, il y a d'abord les joueuses, les utilisatrices, et puis il y a toutes celles qui sont à la conception, les créatrices de jeux, les éditrices, les créatrices de contenu en ligne, les streameuses, etc., les créatrices d'objets, de costumes, de cosplay, les cosplayeuses. Donc, en fait, on retrouve à la fois des inégalités, et là, on reste sur du très classique, hein, inégalité de salaire, moins d'embauches, phénomène du plafond de verre, difficile de trouver sa place. Elles sont moins considérées et puis elles sont moins payées. Voilà, on les embauche moins et on les embauche moins cher. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, 22% seulement de femmes dans l'industrie du jeu vidéo français, ce qui est encore assez peu représenté. Mais la deuxième problématique, eh ben, c'est les violences que subissent les femmes, j'ai envie de te dire, au quotidien dans le monde de l'industrie du jeu vidéo. On va parler de cyberviolence quand ça passe par un écran, même par un téléphone, jeu, internet, réseau, c'est de la cyberviolence. Et là, je ne te parle pas de petites violences. On a effectivement du harcèlement, du dénigrement, des insultes. On a aussi des menaces de mort, des menaces de viol, des encouragements au suicide, du doxing. Alors le doxing, c'est quand on divulgue les données personnelles d'une personne célèbre, ce qui peut être, je te l'apprends pas, super dangereux pour la personne. Donc c'est pas rien. Les gens pensent que comme c'est du virtuel, c'est moins grave, mais en fait, pas du tout. Les conséquences sont bien réelles sur la vie des personnes, notamment des femmes. Et puis c'est pas non plus un phénomène à la marge. En 2016, il y a une étude américaine sur un jeu de tir à la première personne. Je ne sais pas si tu as joué à ce genre de jeu-là, où en fait, on est avec les autres et chacun a des objectifs et essaye de tirer. 75% des femmes qui ont répondu ont dit être harcelées pendant leur partie en ligne.
D'accord, oui,
75,
c'est énorme.
Ouais. 75. C'est un peu énorme. Mmh. Du coup, pour se rendre compte de ça, il y a un gamer pro, et je vous invite à aller voir la vidéo, un gamer pro dont le pseudo est JKM, qui prend le pseudo d'une femme, qui modifie sa voix sur l'ordinateur et qui joue à un jeu comme ça en ligne, avec du coup une voix féminine et un pseudo féminin prêté par une homologue féminine, une gameuse pro. Et il se prend un déluge de commentaires dès qu'il commence. D'abord des trucs sur « t'as une jolie voix, ça me plaît, les filles ne savent pas jouer, t'as pas besoin de gilet pare-balles, t'as qu'à utiliser tes nichons, les filles sont nulles aux jeux vidéo, sérieux ?» Et puis ça devient un peu plus violent. « Pisse dans un flacon et envoie-le-moi, tu devrais pas être en train de sucer une bite, salope, grosse pute, moche et pleine de boutons, je vais te violer. » Ce genre de choses, voilà, florilège. On voit que le joueur est complètement troublé, parce que lui s'est dit que c'était pas si énorme que ça, il est complètement désarçonné. Il dit, mais comment tu fais pour jouer? C'est impossible, j'arrive pas à me concentrer quand j'entends ça. Et en fait, c'est le quotidien de beaucoup, beaucoup de joueuses, surtout quand elles passent au niveau pro et que du coup, elles viennent un peu sur les plates-bandes, si tu veux, des joueurs. Donc,
ça pose aussi la question de la réponse pénale à toutes ces insultes par Internet. On sait qu'il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Il y en a sur les sites de stream.
Partout. Donc, effectivement, les lois encadrent ça. Il y a beaucoup de lois aujourd'hui aujourd'hui qui existent sur les cyberviolences. Mais après, il y a toujours des différences entre la loi et l'application de la loi.
Oui, oui, et quand c'est tous les jours des dizaines de messages, bout d'un moment, on porte plainte.
C'est compliqué, et puis on ne peut pas porter plainte contre 100 000 personnes, etc. Mmh. Alors effectivement, je voudrais quand même dire que le sexisme sur les jeux vidéo, ça peut aussi toucher les joueurs masculins, d'accord, qui peuvent des fois être remis en question dans leur virilité ou victimes d'homophobie aussi. Il y a beaucoup ce genre de choses sur les jeux. Donc voilà, ça c'est pour le côté joueur, on va dire, joueur et joueuse. Pour le côté conception et industrie, c'est très compliqué. Et les femmes qui ont pu accéder à une forme de notoriété, souvent se sont fait trashées, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc j'ai deux exemples assez parlants. Anita Sarkeesian, dont je parlais tout à l'heure, qui publiait des vidéos qui étudiaient la représentation des femmes dans les jeux vidéo, a subi une campagne, et je parle bien de campagne, c'est organisé, de cyberharcèlement, des commentaires haineux, des insultes, des menaces. Et attention, tu vas voir, c'est impressionnant. Elle a reçu des dessins pornographiques qui la représentent se faire violer par des personnages de jeux vidéo. Et il y a même un jeu Flash, un jeu vidéo en Flash qui a été créé où on peut la tabasser. Donc tu vois jusqu'où ça peut aller quand même. Et elle finit par porter plainte et elle doit fuir de son domicile carrément. Elle a dû déménager. Donc c'est, tu vois les conséquences, c'est grave.
Très grave.
Et on en a une deuxième qui a été assez connue aussi, Zoe Quinn, qui a créé un jeu vidéo indépendant et qui était aussi une streameuse. Elle, en fait, son petit ami l'a dénoncé sur les réseaux de l'avoir trompée avec un journaliste dans le monde du jeu vidéo. Et du coup, sous prétexte de dire « Ah ouais, mais du coup, en fait, elle couche par intérêt pour que son jeu soit bien noté, etc. » Sous l'excuse de dire « On remet en question l'éthique des journalistes », en fait, il y a eu toute une campagne, pareil, de harcèlement très, très violente contre elle et contre toutes les femmes, en fait, dans le monde du jeu vidéo. Et il y a carrément eu un mouvement antiféministe qui s'est créé sous le hashtag Gamergate. On entend souvent quand il y a une affaire avec le mot gate. Donc Gamergate, une grosse controverse et qui en fait était encore une campagne de harcèlement qui ciblait les femmes de l'industrie publique. Donc voilà pour la violence pour les travailleuses, entre guillemets, des jeux vidéo. Et puis une dernière violence qui existe et dont je voulais parler. Je ne sais pas encore comment appeler ça. Moi, je vais dire là une violence par avatar interposée. Je ne sais pas si on peut dire ça. L'avatar, du coup, c'est le personnage dans le jeu vidéo où, en fait, il y a des agressions sexuelles entre les personnages masculins, par exemple, et les personnages féminins. Et par exemple, avec l'arrivée du métaverse, qui est une espèce d'univers virtuel créé par Meta, donc Facebook, il y a une personne, une femme qui a joué et qui, moins d'une heure plus tard, après s'être installée dessus, s'est faite violer, son avatar s'est fait violer dans une salle par plusieurs avatars masculins. Donc ça pose question par rapport au fait que c'est du virtuel, ça pose question éthiquement parlant, juridiquement parlant. Et tu me connais, moi, je n'ai pas des réponses toutes faites. Par contre, j'invite les gens à se questionner là-dessus, parce que c'est quand même l'évolution aussi de la société ce monde virtuel, et qui est censé être safe et inclusif, donc sécuritaire et un peu pour tout le monde, et où en fait, on se rend compte que, c'est pire, la violence est d'autant plus présente.
Oui, ça pose question aussi du niveau d'intelligence de ces gens qui se disent « je vais violer un avatar ». Touche vraiment...
On va chercher quand même quelque chose de particulier. Ouais.
Ouais. Est-ce qu'il y a une évolution quand même
Alors oui, on va donner un petit peu d'espoir quand même. Ça évolue, ça évolue lentement, mais ça évolue. Déjà parce qu'il y a de plus en plus de témoignages. Donc il y a forcément une prise de conscience, un peu comme tous les témoignages, comme les MeToo, comme etc. dans tous les domaines. Donc il y a plusieurs acteurs et actrices du jeu vidéo qui mettent en place des initiatives déjà pour promouvoir la mixité dans le monde du jeu vidéo. Je voudrais citer l'association Women in Games, donc femmes dans les jeux, qui existent dans plusieurs pays, notamment en France. Donc je vous invite à aller voir leur site internet qui est très bien fait, qui œuvre vraiment pour la mixité dans l'industrie, qui améliore la visibilité des femmes, qui communique auprès des jeunes femmes sur les métiers qui existent. Ce genre de choses. Il y a aussi des grosses productions de jeux vidéo comme Sony ou des choses comme ça qui, de plus en plus, permettent de mettre en valeur des personnages féminins. Alors depuis 2015, ça avait commencé avec FIFA, qui proposait de sélectionner une équipe féminine. Je crois que Valérie, tu en avais parlé aussi.
Oui.
Plus récemment, on a aussi eu Assassin's Creed, où on peut maintenant choisir d'interpréter un personnage féminin comme héroïne. Et pareil pour Call of Duty, etc. Donc ça bouge un petit peu à force d'en parler. Voilà, donc c'est bien. Il y a aussi, je ne sais pas si tu connais, le système de classification PEGI. Quand on achète un jeu vidéo, il y a des petits logos là, PEGI, qui disent moins de 7, moins de 7, moins de 10, moins de 12.
Les interdictions d'âge.
Voilà, c'est ça, l'interdiction d'âge. Et puis il y a des pictos qui disent attention, il peut y avoir violence, drogue, sexe, etc. Et il y a un picto qui a été ajouté qui dit jeu contenant des images ou des éléments susceptibles d'inciter à la discrimination raciste, sexiste, etc. Tu vois, il y a aussi, bon, il y a aussi ce genre d'évolution.
Alors, pourquoi pas l'interdire, cette discrimination dans les jeux directement, lui dire.
Je suis tout à fait d'accord.
Attention, il y en a. Mais non.
Voilà. Mais bon, il y a aussi une histoire de censure, de est-ce que les jeux vidéo c'est cathartique. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça pose aussi plein de questions.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on fait du jeu vidéo, tu vois, comme dans le cinéma. Et puis, concernant les violences, donc, pour la prise de parole, il y a une liste qui a été mise en place de témoignages. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 566, quelque chose comme ça. Les principes agresseurs supposés vont être des youtubeurs, des streamers, des personnes dans l'industrie du jeu vidéo et qui sont souvent assez connus, qui ont de la notoriété. Et les streameuses, dès qu'elles parlent, voilà, ce que tu me disais tout à l'heure, juste avant, on va parler de leur physique avant de parler de ce qu'elles ont à dire. Donc il y a de plus en plus de témoignages, c'est facilité et la plateforme Twitch a réagi en disant qu'elle allait mettre en place des sanctions et améliorer ses outils pour essayer de filtrer un peu ce genre de contenu. Voilà, l'industrie bouge. Un petit peu comme le reste.
Un petit peu. Voilà. Pas si rapidement, mais bon.
Voilà. C'est déjà ça.
Bon, ben on a bien fait le tour. Merci beaucoup, Claire.
Ben, de rien. Écoute, est-ce que je dis un peu, je donne un ou deux conseils sur ce qu'on peut nous faire, la société entre guillemets évolue, mais je voudrais juste dire aux consommateurs et consommatrices qu'on peut déjà se questionner, comme d'habitude, se questionner sur ses choix de jeu. Par qui il a été conçu, quel type de contenu il a, est-ce que c'est inclusif ou pas, etc. Est-ce que les personnages féminins sont présents? Mais aussi, questionnez-vous sur vos comportements dans les jeux, dans les commentaires, parce que, en fait, c'est virtuel, mais encore une fois, conséquence réelle. Peut-être, quand c'est pas vous qui êtes joueur ou joueuse, d'observer dans la famille, peut-être les enfants, peut-être les amis, tout ça. Et pareil, de questionner et de débattre. Et puis, c'est important aussi aujourd'hui la prévention. On en parle beaucoup et ça me paraît capital, la prévention, l'éducation, par la discussion avec les jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est lié, hein, virtuel et réel, ils sont complètement dedans, comme nous les adultes, mais eux aussi beaucoup. Et dans les deux cas, le virtuel ou le réel, même si on ne peut pas séparer, les violences sexistes et sexuelles se reposent sur les stéréotypes. Donc c'est important d'intervenir sur ces thématiques-là. Et je voudrais dire qu'ici, en Lozère, il y a des choses qui se passent. C'est important de se dire qu'ici, même à Mende, les choses bougent avec des établissements scolaires qui se sentent concernés, qui font des demandes là-dessus, sur ces thématiques-là, et plein d'assos super chouettes qui interviennent justement dans les lycées pour sensibiliser les jeunes. Donc voilà, rapidement, le planning familial, Espace 48 Jeunes, la CJC. Voilà, on intervient individuellement ou collectivement et on va parler de tout ça pour faire un peu de prévention. Et pour ceux qui veulent, dernière touche, pour les professionnels, on propose aussi une formation sur les cyberviolences. Voilà, parce qu'il faut s'attaquer aux problèmes sur tous les fronts. Voilà, merci Ludo.
Allez, merci beaucoup Claire.